qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
Cette semaine, quelques chefs-d'œuvre de la littérature française. La princesse de Clèves.
Croyez-le ou non, mais ce petit bout de femme est une résistante. Elle a même ses partisans et des badges créés spécialement pour elle.
J'ai l'obtenu de haute lutte, je le garde.
Qui eût pu imaginer qu'une vénérable princesse du XVIIe siècle ait pu devenir un symbole politique 350 ans plus tard, que l'on utilise même pendant les meetings.
La publicité d'Apollinaire, de Victor Hugo, de la princesse de Clèves.
C'est dès sa parution en 1678, en 4 petits volumes, que la princesse de Clèves accède à la célébrité. La chronique dit qu'elle est de suite entre les mains de tout le monde. Madame de Sévigné, en séjour dans son château des Rochers, la lie ainsi à haute voix à l'évêque de Rennes. Madame de Lafayette n'en apparaît pas officiellement alors comme l'auteur. Elle-même apparenterait volontiers le livre au genre des mémoires. C'est plus tard qu'on va le considérer comme un modèle de roman moderne. Mais Madame de Lafayette était également déjà très connue pour ses nouvelles. La nouvelle qui suffit à dire de façon dramatique les mystères de la personne humaine. En 1671, Madame de Tiande offrait au duc du Maine un cabinet avec des figures de cire. On y voyait La Rochefoucauld qui lisait assis, Bossuet se tenait debout derrière lui avec Racine qui faisait signe à La Fontaine d'avancer. Boileau, posté devant la porte avec une fourche, interdisait l'entrée des poètes médiocres. Et qui se tenait au premier plan, lisant des vers, Madame de Lafayette. Cette manière de muser Grévin avant la lettre se nommait la chambre sublime et Madame de Lafayette en était. Et certains voudraient mettre sa figure et son héroïne à la réforme. Mais alors, autant mener aussi à l'abattoir tout l'attelage du XVIIe siècle classique.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Camille Esmin-Sarrazin, bonjour.
Bonjour.
Très jeune, vous avez bénéficié d'un privilège. On vous a confié l'édition à vous, toute seule, de tout Madame de Lafayette.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas que la princesse de Clèves, il n'y a pas que la princesse de Montpensier, la nouvelle qui la faisait connaître. Il y a d'autres livres encore.
Tout à fait. J'ai eu effectivement le privilège d'éditer l'ensemble de ses œuvres, romanesques, historiques, correspondances.
Il y a des œuvres qui lui étaient attribuées que vous n'avez pas mises?
Il y a des œuvres qui lui sont attribuées, qui lui ont pu lui être attribuées, mais de façon extrêmement hypothétique, et les hypothèses ont en général été très vite mises à mal, effectivement. Mais sinon, j'ai édité toutes les œuvres qui lui sont attribuées, qu'elles lui soient attribuées de façon vraiment certaine aujourd'hui, et puis une qui lui est attribuée, dont personnellement je pense qu'elle ne lui est pas, et qu'elle n'est pas d'elle, avec un certain nombre d'arguments, et je ne suis pas du tout la première à tenir cette position. Les mémoires de la Cour de France.
Les mémoires de la Cour de France. Mais elle disait qu'elle faisait des mémoires au moment de la princesse de Clèves. Elle plantait les jalons du roman moderne. Un mot quand même de Madame de Lafayette, une précieuse de haut rang et de la plus haute volée.
Tout à fait. Donc ce sont des voyageurs hollandais qui ont écrit dans leur journal de voyage cette expression. Donc Madame de Lafayette est effectivement considérée comme une précieuse par ses contemporains, et aujourd'hui quand on parle des précieuses du XVIIe siècle, celles qui sont raillées par Molière, celles qu'un grand nombre de contemporains dénigrent en considérant que ce sont des femmes intellectuelles, qui sont peu intéressées par les relations avec les hommes. Ce ne sont pas des homosexuels avant l'heure, mais ce sont des femmes qui font de l'amitié féminine quelque chose d'important, qui cherchent à se hisser au-dessus de leur sexe et des réalités matérielles, des contingences matérielles de la vie féminine, notamment par une pensée, une réflexion, et parfois par des écrits, même si c'est quelque chose de rare à l'époque d'écrire, et encore plus rare de publier, d'où l'anonymat que vous évoquiez de Madame de Lafayette.
S'élever au-dessus des superficialités de la cour de Louis XIV, elle est tout dans le divertissement et l'ordre, peut-être celle qui est évoquée dans La princesse de Clèves, celle de 1558-1559, a-t-elle davantage de qualité? Henri II va bientôt mourir, François II, le jeune époux de Marie Stuart, lui succédait de manière éphémère.
La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait, de l'un et de l'autre sexe, ne manquait pas de se trouver.
Clève, votre femme est bien belle et bien jeune.
Diane de Poitiers.
N'êtes-vous pas heureux ? Clève, quand le roi m'a aimé, il avait l'âge de votre femme. Sa Majesté et moi sommes toujours heureux. Et notre amour est resté toujours aussi jeune.
Je suis sûre qu'elle est encore en train de parler de son âge. Il faut que votre Majesté convienne que Diane de Poitiers ne porte pas son âge.
Tant mieux pour elle, car il est lourd à porter.
Comment le roi a-t-il pu s'attacher à une personne
Marie Stuart,
qui était la maîtresse de son père et qu'il est encore de beaucoup d'autres, à ce que j'ai entendu dire.
Pourquoi ne dansez-vous pas, ma Bru?
Parce que François ne peut danser sans se trouver mal.
Et nous voilà bien. Mon fils est trop jeune. Je ne le suis plus assez. Et la maîtresse de mon mari est trop vieille. Charmante famille.
L'adaptation, on a reconnu aussi Pierre Halle de Jean Delannoy, avec un texte de Jean Cocteau adapté de La princesse de Clèves, le texte plus précis, plus exact, dans le spectacle de Marcel Bozonnet. On entendait la voix de l'ancien administrateur du Français il y a un instant. Camille Esmin, je disais, les jalons, l'invention du roman moderne. Le roman moderne utilise le matériau historique, mais Madame de Lafayette va imposer sa loi à l'histoire. Madame de Clèves, par exemple, n'a pas existé, si ?
Tout à fait. Donc en fait, ce qui fait la grande nouveauté dans ce roman, La princesse de Clèves, ce qui fait qu'on a pu y voir effectivement le premier roman moderne, c'est à la fois l'utilisation de l'histoire, une utilisation de l'histoire très fine, plus fine et plus précise que ce qu'on pouvait avoir dans les romans antérieurs, par exemple ceux de Madeleine de Scudéry, et en même temps une utilisation de l'histoire qui va avec un certain nombre de modifications, détournements au profit de la fiction.
Et des guises, donc, parce que la famille existe effectivement, on le sait, des Nemours, de noms réels, elle fait un peu ce qu'elle veut. Vous disiez, les précieuses privilégient l'amitié féminine. C'est vrai que dans la fréquentation des hommes, on risque d'être trahi ou on risque de trahir. Et le repos est toujours préférable à la passion. Enfin, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de roman.
Tout à fait. Donc effectivement, la nouveauté de La princesse de Clèves, elle tient à la fois à cet usage très fin d'histoire, à ce détournement, donc l'invention du personnage de La princesse de Clèves, qui n'a pas existé, à côté d'un grand nombre de personnages véritablement historiques, et puis la place de la passion, et l'art de l'analyse, qui est le fait de Madame de Lafayette dans ses récits. Donc la présence de passion tragique qui entraîne l'être, et c'est donc ce qui cause le
ça la laisse
la
sans
perte
voir
de cette princesse.
La présence de du duc de Nemours au bal.
Tout à fait.
Elle est foudroyée.
Tout à fait, elle est foudroyée. L'un et l'autre se regardent et puis dansent. Et donc on a cette scène de première vue inoubliable qui est cette scène du bal entre la princesse et le duc de Nemours.
Mais elle ne va pas jusqu'à la trahison, la princesse de Clèves.
Alors, elle ne va pas jusqu'à la trahison dans les faits. Puisqu'effectivement, elle ne trompe jamais son mari, et elle lui avoue son amour, mais en même temps, elle se laisse aller à sa passion, elle n'arrive pas à contraindre cette passion, et son mari meurt de désespoir et de jalousie parce qu'il pense que sa femme la trompe, sinon dans les faits, du moins en pensée.
Et il a des raisons de le penser, parce que voici la fameuse scène, la scène nœud, qu'on va entendre dans différentes versions plus d'une fois dans l'émission. La princesse de Clèves s'est éloignée de la cour, et le prince de Clèves s'en inquiète. On entend un instant la voix de Guillaume Gallienne, et on revient à l'adaptation de Delannoy.
Quand M. de Clèves fut revenu, elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne, qu'elle se trouvait mal et qu'elle avait besoin de prendre l'air.
Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige parce qu'il nous sépare. Pourquoi ne voulez-vous pas revenir à Paris ?
Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit. Mais le tumulte de la cour est si grand qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos.
Le repos n'est guère propre à une personne de votre âge. Votre air et vos paroles me font croire que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seul. Et je vous conjure de me les dire.
Ne me contraignez pas à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer. Quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein. Sachez seulement que la prudence ne veut pas que je demeure exposée au milieu de la cour.
Me faites-vous envisager, madame. Ne me dites rien, c'est me dire que je ne me trompe pas.
Eh bien, monsieur, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à un mari. Il est vrai que j'ai des raisons pour m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent parfois les personnes de mon âge. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je ne vous déplairai jamais par mes actes. Ayez pitié de moi. Aimez-moi encore si cela vous est possible.
C'est drôle, est-ce que c'est à cause de l'identification à l'acteur Jean Marais, au ton de sa voix, mais on imagine le prince de Clèves toujours plus vieux, beaucoup plus vieux que la princesse, qui n'est pas exacte.
Non, ça, ce n'est pas exact, effectivement, non. C'est un homme jeune et... Et séduisant lui aussi, d'après les contemporains.
Pardonnez-moi de parler d'exactitude, parce que vous publiez le dossier de réception de la princesse de Clèves. Tout le monde se met à la lire, dans son cabinet, dans sa chambre. On en discute, on échange beaucoup de textes. Et alors, les papiers critiques, dirait-on aujourd'hui, insistent beaucoup sur la vraisemblance ou pas de l'histoire.
Tout à fait. Donc on a effectivement beaucoup de réactions connues au moment de la publication et même dès avant la publication quand l'ouvrage circule. Et en particulier, un premier type de réaction qui est très intéressant dans un périodique du temps, le Mercure Galant, des lettres de lecteurs, qu'il s'agisse de lettres véridiques, authentiques ou de lettres écrites par les rédacteurs de ce périodique. Et ces lettres, elles rebondissent sur une question qu'il leur est posée à propos de l'aveu de la princesse de Clèves à son mari, et l'intégralité des lecteurs ou des pseudo-lecteurs remettent en cause le bien fondé de cet aveu en le considérant invraisemblable, extravagant.
Bussy Rabutin, l'ami de Madame de Sévigné, qui n'est pas toujours clément pour la princesse de Clèves, dit que c'est de bonne justesse en revanche.
Oui, bon, en même temps, il condamne un certain nombre d'éléments liés à cet aveu. Hein, le fait que le duc de Nemours soit présent, qu'il juge absolument... sa présence est jugée extravagante au moment de cet aveu. Et puis donc, on a ce qui fait le cœur de ce dossier critique, ce sont deux longs textes. Une critique publiée de façon anonyme et attribuée assez rapidement à quelqu'un qui s'appelle Valincourt, qui est l'élève de Bourg, un grand érudit du temps, qui écrit donc un livre entier sur la princesse de Clèves. Et à ce livre, un autre érudit, Charnes, répond à nouveau de façon anonyme.
Et ça fait autant de pages que.
Ça fait autant de pages que le roman lui-même, tout à fait.
Édition.
Et c'est lu aussi beaucoup, c'est ça qui est étonnant.
Et alors, il y a des critiques sur le style aussi.
Il y a des critiques sur le style, tout à fait.
Est un peu irrégulier, la construction des phrases n'est pas exacte. Alors, d'aucuns disent ça, le grammairien.
Tout à fait. Le premier, Valincourt, est très tatillon. Donc, il va reprendre toutes les formulations qui sont ambiguës, mal tournées selon lui, peu élégantes, répétitives, qui font partie du jargon des précieuses, pour revenir à ces précieuses. Donc, on reproche à ce roman là, une nouveauté stylistique.
Et vous dites, il n'y a rien de grimpé. C'est joli comme formule. Il n'y a rien de grimpé dans le style
oui,
de Madame de la Fayette.
Il n'y a rien de romanesque ni de grimpé. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est Madame de la Fayette elle-même. Mais donc, effectivement, il n'y a rien de grimpé. Tout est élégant, tout coule de source. Effectivement, c'est l'impression que fait ce roman, encore aujourd'hui quand on le lit, par rapport à la langue justement des récits un peu antérieurs, des romans baroques. C'est une langue beaucoup plus dénuée, beaucoup plus pure, beaucoup plus simple.
Alors revenons à la vraisemblance. C'est toujours le même épisode dont on va entendre une autre interprétation. Nous sommes ici dans celle de Manuel de Oliveira. Alors, le duc de Nemours, dit Bussy Rabutin, il peut pas se tenir derrière la palissade et entendre le dialogue entre le prince et la princesse de Clèves. Le vieil Oliveira, le cinéaste portugais, a lui imaginé que la princesse, Chiara Mastroianni, est amoureuse d'un chanteur, Pedro Abrunosa, lequel ne grimpe pas au rideau, mais dissimulé derrière les rideaux et va entendre.
Tu m'obliges à une confession que je veux depuis longtemps. Je ne sais comment la faire. J'ai de nombreuses craintes qui me retiennent. Je la veux et je ne sais.
Parle, ne me laisse pas dans cette incertitude.
Je ne sais si je dois.
Quand tous vont dormir, é mais fácil desistir. Quand a noite está chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro, só o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vês. Não quero ser primeiro, só um barco das mãos.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les fortunes de la princesse de Clèves en 1999. Le duc de Nemours. Rien ne résiste au duc de Nemours. C'est dans le film de Oliveira. Un chanteur portugais, Abrunosa. Et on n'est pas à la cour. On est dans un concert. Le rideau derrière lequel le duc de Nemours, le chanteur, est dissimulé. C'est un rideau de scène. Alors vous éditez, Camille Esmin-Sarrazin, toute l'œuvre de Madame de Lafayette dans la bibliothèque de la Pléiade, et on s'intéresse particulièrement à son livre le plus connu, même si on en a publié beaucoup d'autres fort intéressants. 7 ans après le film d'Oliveira, un homme politique, vous dites ça, hein, un homme politique, il a droit, grâce à vous, à une présence dans la Pléiade, il faut vous saluer, dit que on ne discute pas avec une guichetière de la poste de la princesse de Clèves. On fait pas sa cour comme ça dans le monde moderne. Et puis ça sert à rien, quand on est derrière le guichet de la poste, de connaître la princesse de Clèves. Alors la professeure de lettres que vous êtes doit se révolter et dire que c'est toute la culture classique qui est concernée, et pas seulement Madame de Lafayette.
Oui, je suis bien d'accord, effectivement, c'est toute la culture classique. Alors, je reviens sur la formulation « homme politique ». Alors, pourquoi j'ai choisi « homme politique » et de ne pas nommer ? C'est aussi parce que il y a quand même une certaine contingence de telles formulations, et que la princesse de Clèves, elle, est quand même vouée à durer, a priori. Donc, je ne voulais pas non plus donner trop d'importance à ces éléments-là. Maintenant, je suis d'accord avec vous, derrière la princesse de Clèves se cache... les classiques, en général, qu'il s'agisse du panthéon des classiques que vous avez évoqué tout à l'heure avec cette chambre du sublime offerte au duc du Maine, Racine, Molière, Corneille, les moralistes du XVIIe siècle, mais aussi les autres grands auteurs des autres siècles de la littérature française. Tout à fait.
L'Empire finissant de Chine révoque la culture classique confucéenne dans ses examens, l'élimine, et puis un siècle plus tard, le gouvernement communiste capitaliste de Chine dit que c'est Confucius, qui est la marque et qui incarne l'unité de la Chine. On pourra peut-être dire un peu la même chose un jour de La Fontaine, de Madame de Lafayette, de Racine ou de Boileau. Réplique aussitôt que vous saluez celle du cinéaste Christophe Honoré. Là, on est en 2008. Son nom, je crois que vous le donnez, là.
Oui. Hein?
Et qu'est-ce qu'il imagine, lui, de faire transposer le personnage de la princesse de Clèves dans un lycée?
Tout à fait. Donc avec des personnages, un personnage d'enseignant et puis des personnages de lycéens. Ouais. Tout à fait, qui représentent donc ces héros du roman. Donc une transposition moderne, déroutante au premier abord, mais intéressante, qui donne à penser, alors qui se focalise, comme beaucoup de finalement de ces adaptations de La Princesse de Clèves, sur la question de la trahison essentiellement, et sur la trahison telle qu'elle peut se poser aux gens d'aujourd'hui, peut-être plus que à la manière dont elle peut se poser à la cour d'Henri II.
Trahison dans la concision, enfin je veux dire que le vocabulaire est accéléré.
On n'oblige pas à t'avouer quelque chose qui ne sert à rien.
Ça signifie quoi ça, Junie? Ça signifie quoi ça? Tu peux tout me dire, je préfère savoir que d'imaginer le pire. T'as promis de jamais mentir, alors tu me mens pas. Junie.
En partant, je me protège de quelqu'un d'ici. Voilà. La vérité, c'est que je prends la fuite.
Est-ce quelqu'un dont tu es amoureuse?
Quelqu'un que je ne veux pas aimer.
T'es en train de m'annoncer que t'es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre?
Je te dis l'inverse de ça. Je m'en vais pour éviter de tomber amoureuse. Je te respecte, Otto. Si je t'avoue ça, c'est la preuve que tu comptes vraiment pour moi.
La princesse de Clèves a aussi été transposée dans des lycées des quartiers nord de Marseille, dans un excellent documentaire. Il y a quand même des limites à ces adaptations. Je ne sais pas si tous les thèmes de la princesse de Clèves sont perçus par les adaptations contemporaines.
Alors en fait, ces adaptations contemporaines, manifestement, elles font des choix. Elles récupèrent dans le roman ce qui leur semble pouvoir intéresser aujourd'hui, parler aujourd'hui au lecteur, au spectateur. Donc là, dans l'extrait que vous venez de donner, on voit bien que c'est la question de l'aveu qui, un peu comme les lecteurs du Mercure Galant, fascine, déroute, étonne.
Faut-il être honnête?
Faut-il être honnête, c'est ça? Faut-il aller jusqu'au bout de la sincérité vis-à-vis de la personne aimée ou de la personne à qui on doit une certaine fidélité, à partir du moment où on ne l'aime plus, où on ressent des sentiments pour quelqu'un d'autre.
Mais il y a un thème qui apparaît beaucoup moins, c'est celui du refus par la princesse de la poursuite de la relation quand le prince meurt de chagrin de l'aveu qui lui a été fait. Ce qu'on va entendre ici, c'est un dernier extrait de la version Delannoy, Cocteau. Pas très fidèle, parce qu'il n'y a pas eu d'entrevue finale entre Nemours et la princesse de Clèves dans ces termes dans le roman, mais on sent bien la détermination de la princesse, son choix libre de refuser.
Je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus avant de vous connaître. Mais cet aveu ne peut avoir de suite.
Que craignez-vous? Pourquoi mon amour vous est-il si redoutable?
Rien ne peut m'empêcher de connaître que vous êtes né pour plaire. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Et mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Dans cet état, je n'aurais d'autre parti à prendre que celui de la souffrance.
Il est plus difficile que vous ne pensez de résister à ce qui vous plaît et à ce qui vous aime.
Je n'espère pas surmonter l'inclination que j'ai pour vous, mais je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte.
Je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. On dit ça encore en 61 dans l'adaptation de Delannoy, beaucoup moins dans les adaptations d'aujourd'hui.
Tout à fait. Alors donc ce que vous faites ici ressortir, c'est cette question du repos de Madame de Lafayette, question du repos qui a fait couler beaucoup d'encre. Comment comprendre, comment interpréter ce repos, ce choix qu'elle fait après la mort de son mari, alors qu'il lui serait tout à fait possible de se laisser aller à la passion, d'épouser le duc de Nemours, de l'aimer en tout bien tout honneur. Elle refuse, comme on vient de le voir dans la scène qu'on a entendue, elle refuse de se laisser aller à ses sentiments, elle refuse, tout en avouant au duc de Nemours pour la première fois en face, et non pas à son propre époux, tout en lui avouant qu'elle l'aime, qu'elle l'a aimé et qu'elle éprouve de forts sentiments pour lui, elle renonce à une vie avec lui.
Ce que vous appelez le repos, c'est aussi de l'héroïsme un peu. Alors, à sa manière, sa vie fut assez courte, mais elle laisse des exemples de vertus inimitables.
Oui, tout à fait. C'est de l'héroïsme. Alors, ce terme repos, c'est celui de Madame de Lafayette. Hein. C'est un terme qu'on rencontre assez souvent, qu'on rencontre dans le vocabulaire spirituel contemporain, sans pour autant qu'on puisse l'interpréter pleinement de ce côté-là. Et effectivement, comme vous disiez, il y a une part d'héroïsme, voire de gloire de la part de ce personnage, de la princesse de Clèves. Donc, on ne peut pas interpréter complètement d'un côté ou de l'autre, du côté d'une gloire héroïque qui serait un sentiment personnel.
Ou du côté d'une recherche.
Ou du côté d'une aspiration à. D'une recherche du repos qui serait une aspiration à. Qui serait une quête spirituelle, en fait.
Ah, oui, parce que on en vient maintenant à la fin de Madame de Lafayette elle-même, qui va vivre longtemps encore jusqu'en 1693, certes un peu malade. On la voit entreprendre des correspondances, par exemple avec l'abbé de Rancé, qui s'est réfugié dans les marais du Perche, dans son abbaye de la Trappe, où il applique une règle féroce, et elle va demander des conseils à cet homme.
Tout à fait. Alors, donc Madame de Lafayette, donc c'est une femme qui, dans sa jeunesse, vit à la cour. Elle est proche d'Henriette d'Angleterre, dont elle écrit les mémoires. Elle participe à un certain nombre de grandes fêtes, comme les fêtes de Vaux, offertes par Fouquet.
Et tout ça est superficiel, dirons-nous.
Tout ça est sans doute superficiel. Elle a un premier coup, justement, avec la mort si brutale d'Henriette d'Angleterre. Un second, à titre plus personnel, avec la mort de La Rochefoucauld, dont elle est très proche pendant à cette période. Et à partir de là, elle choisit effectivement une vie beaucoup plus en retraite. Alors, est-ce que c'est le fait de ses problèmes de santé ou est-ce que c'est un choix ? Là encore, finalement, comme on a assez peu d'éléments de correspondance, la correspondance connaît beaucoup de trous, on ne peut pas le savoir de façon très explicite, mais il y a effectivement ces lettres de Rancé, ces lettres de direction spirituelle qu'elle reçoit à la fin de sa vie.
Et puis aussi toutes les correspondances avec le milieu janséniste, mais on ne va pas aller enseigner dans les écoles. Après Madame de Lafayette, le jansénisme est Port-Royal, ça n'a pas d'importance dans l'histoire de la France, vous le savez bien. Camille Esma-Sarrazin, votre édition des œuvres de Madame de Lafayette dans la bibliothèque de la Pléiade. L'émission était réalisée par Jacques Sigal, Ilinka Negulesco, Isor Pisani Ferry, Guillaume Georges, Franck Olivard, Frédéric Martin pour la préparation et à la technique, Maxime Anna.